viendra de là. Alors, je m'arrête un peu pour passer au résultat de cette enquête dont je vous ai parlé. On a mené une enquête, on était 6 équipes de recherche dans 6 pays européens différents, et on a exploité toutes les enquêtes qui existaient sur le travail, par exemple l'European Social Survey, l'International Social Survey Programme, l'European Value Study, et en plus on a fait des entretiens dans les 6 pays. Alors voilà ce qu'on a découvert. Première chose évidente, on demande aux personnes, vous voyez, est-ce que dans votre vie le travail est important? Vous avez en noir les gens qui répondent très important, et puis plus ça s'éclaircit, moins c'est important. Donc déjà on voit une première chose, c'est que dans la plupart des pays européens, le travail est très important ou assez important, mais quand même très important. Premier message. Deuxième message, il y a quand même des différences. Et vous voyez, je crois que c'est ma petite flèche, où elle est là, voilà. Vous voyez qu'il y a tout de suite des différences qui sautent un petit peu aux yeux, entre par exemple, vous voyez, des pays comme Danemark, Grande-Bretagne, Pays-Bas, où il y a 40% des gens, ou un petit peu plus, qui disent que le travail est très important, et puis ici, de l'autre côté, la Pologne, Malte, la Roumanie, la Lettonie et la France, qui considèrent que le travail est très important. Donc, un autre message important, c'est que la France est dans une position qui est quand même assez curieuse, hein, puisqu'elle est avec la Lettonie, la Roumanie, Malte et la Pologne. Alors vous me direz, elle est aussi avec la Belgique, mais bon, quand même, elle a une position très particulière avec des pays qui ne lui ressemblent pas. Ça, c'est le résultat de 99. Ça, c'est le résultat de... Je ne sais pas si on voit bien, ouais. Ça, c'est le résultat de 2008, c'est pour vous montrer que c'est pareil. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est pareil, c'est-à-dire on a la France qui continue, vous voyez, elle est ici. La France continue avec des pays un peu différents, mais quand même, là encore, qui ne lui ressemblent pas beaucoup, à présenter une proportion de population très importante qui dit que précisément le travail est très important. Et puis là, on a toujours les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni, la Finlande, qui disent que le travail, c'est quand même moins important. Alors, on a évidemment essayé de comprendre s'il y avait des corrélations entre ce résultat et puis d'autres choses. Est-ce que c'est un effet culturel? Est-ce que ça a un rapport avec, par exemple, le niveau de richesse? Bon, alors, il y a une corrélation négative entre le niveau de PIB par habitant et l'importance accordée au travail. C'est-à-dire, plus votre PIB par habitant est élevé, moins l'importance accordée au travail est grande. C'était, vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait du Danemark, des Pays-Bas, etc., ça marche bien. Alors, ça ne marche pas pour la France, parce que la France, malgré tout ce qu'on dit, elle continue quand même à avoir un PIB par habitant, si on ne s'arrête pas aux deux dernières années, élevé. Donc, c'est une explication qui ne marche pas totalement. En revanche, il y a une explication qui marche partout, en France comme ailleurs, hein, c'est la corrélation entre l'importance accordée au travail et les taux de chômage. Plus vous avez des taux de chômage importants, plus vous accordez de l'importance au travail, et plus les personnes qui disent que le travail est très important sont nombreuses. C'est un résultat qu'on avait déjà obtenu en France avec une enquête qui avait été faite par Baudelot et Golac, qui s'appelait « Travail et mode de vie », où ils avaient montré, ils demandaient aux personnes « qu'est-ce qui pour vous est le plus important pour être heureux ?» Et alors les personnes avaient tendance à répondre, hein, en moyenne, hein, d'abord la santé, ensuite la famille, en trois le travail et en quatre l'argent. D'accord, c'est un tiercé assez, un quarté assez classique. Mais quand on décompose par statut d'emploi, alors on s'aperçoit de choses très intéressantes, c'est-à-dire que alors qu'en moyenne, 25% des gens répondent que c'est le travail qui est le plus important pour être heureux, 43% des chômeurs et 44% des actifs en CDD le répondent. C'est-à-dire qu'il y a une différence très importante entre les gens qui sont au chômage et les autres. Les gens qui sont au chômage considèrent, vous allez me dire que c'est tout à fait évident, normal, oui, mais c'est quand même un résultat essentiel. Les gens qui sont au chômage considèrent beaucoup plus que les autres que le travail est très important. Alors maintenant, il y a une autre spécificité française, ce n'est pas seulement nos hauts taux de chômage, c'est que, vous voyez, là on le voit à travers cette question, là c'est le pourcentage de personnes qui déclarent très important l'intérêt intrinsèque du travail, c'est-à-dire le contenu du travail, la variété du travail, ce qu'on fait, l'activité de travail, l'activité concrète de travail. Et vous voyez, là la France tient le premier rang avec 68% des gens qui déclare que ça, c'est très important, l'intérêt intrinsèque du travail. Donc on a en quelque sorte deux grandes raisons qui expliquent que les Français sont parmi les plus nombreux à dire que le travail est très important. C'est un, notre très haut taux de chômage, et deux, le fait qu'une partie importante de la population est très attachée à l'intérêt intrinsèque du travail. Qu'est-ce que c'est l'intérêt intrinsèque? Quand on a interrogé les gens, on s'est rendu compte que ça recouvrait l'ambiance de travail et l'intérêt du travail. La notion d'intérêt du travail, elle doit être mise en lien à la fois avec le contenu de l'activité et avec les capacités de l'individu. C'est une rencontre entre les capacités de l'individu et ce qu'on lui fait faire. Et donc, ce qu'on a pu obtenir à travers les entretiens, c'est cette idée que un travail intéressant, c'est celui qui permet à l'individu de continuer à apprendre, d'utiliser toutes ses capacités, d'avoir en face de lui des difficultés à résoudre et des solutions à apporter qui sont à la mesure de ses compétences. C'est une sorte de défi, quoi, un défi qui m'est proposé et que j'arrive à résoudre. Et l'importance de la dimension relationnelle, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup, beaucoup venu dans les entretiens. Alors, c'est à la fois le sentiment d'appartenir à un groupe professionnel, à un métier, à une profession, mais en fait, plus encore, fondamentalement, c'est le sentiment d'appartenir à la petite équipe avec laquelle on travaille au quotidien. Cette petite équipe-là, elle est très, très, très importante. Elle est importante au sens où, si ça marche bien, c'est quelque chose qui va vous faire rester, et si ça marche mal, c'est quelque chose qui peut vous détruire complètement le quotidien. Donc, ce que les travailleurs semblent privilégier, plus qu'une appartenance à la société, c'est ce petit réseau de personnes avec lesquelles des habitudes se sont nouées. Alors là, je vous présente deux petits graphiques qui permettent de répondre à un des stéréotypes qui avait suscité notre envie de travailler sur le rapport au travail. Je vous ai dit qu'on avait beaucoup entendu à l'époque que les jeunes n'aimaient plus le travail, qu'ils étaient matérialistes, que le travail vraiment ça ne les intéressait pas. Alors qu'est-ce que je vous ai mis là? Je vous ai découpé par tranches d'âge. Vous voyez ici les moins de 30, ici les 30-50 et ici les plus de 50. Les réponses à deux questions. Ici, je serais contente d'avoir un emploi rémunéré même si je n'avais pas besoin d'argent. Ça représente l'attachement à d'autres choses qu'aux dimensions instrumentales du travail. Et là, la dimension instrumentale, elle est représentée ainsi par la réponse à cette question. Un emploi est juste un moyen de gagner de l'argent et rien d'autre. Eh bien, les jeunes, dans les deux graphiques, sont les moins instrumentaux, je dirais. On oppose la dimension instrumentale, c'est-à-dire on est intéressé d'abord par le revenu, à la dimension expressive du travail. Donc, les jeunes, plus encore que les autres tranches d'âge, ils sont intéressés par la dimension intrinsèque du travail, la possibilité de se réaliser, de s'exprimer au travail et les relations. Et ils sont moins intéressés que les autres tranches d'âge, donc moins matérialistes d'une certaine manière, moins intéressés par la dimension instrumentale. Et puis vous voyez, même quand on va un petit peu plus loin et qu'on leur demande quelle est l'importance de venir en aide aux autres personnes ou d'être utile à la société, et bien là encore, les jeunes sont plus nombreux que les autres tranches d'âge à dire que c'est important comme dimension dans le travail de venir en aide aux autres personnes et d'être utile à la société. Donc je pense que ces réponses-là, elles nous permettent de mettre de côté ces stéréotypes trop communs, trop fréquents. En résumé sur les attentes, je crois qu'il faut dire que les attentes qui pèsent sur le travail, particulièrement en France, elles sont énormes, elles sont immenses, puisque les gens déclarent que le travail est très important, qu'ils ont envie de se réaliser et de s'exprimer dans le travail, qu'ils ont envie finalement d'un travail expressif, porteur d'épanouissement, leur permettant d'exprimer leur singularité. Ils sont attachés aux dimensions relationnelles, attachés évidemment au fait que le travail ait un sens, à son utilité sociale, et il y a également une forte revendication d'équilibre entre le travail et le hors-travail, notamment chez les plus jeunes et chez les femmes. C'est-à-dire que toutes ces dimensions qui sont assez partagées par la population française, elles le sont plus encore par les jeunes et par les femmes. Et plus généralement, elles sont corrélées au niveau d'éducation. Alors, ces attentes immenses, elles se heurtent au bouleversement du travail, c'est-à-dire à ce qu'est devenu le travail en France, mais aussi dans les autres pays européens aujourd'hui. je vous propose qu'on parte pour le découvrir de la diapositive un petit peu symétrique à celle de tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, on disait aux gens, est-ce que le travail, c'est important dans votre vie? Ils étaient très nombreux, hein, plus de 60, en France, 70% à répondre oui. Là, on leur dit, est-ce que ça serait une bonne chose que le travail prenne une place moins grande dans notre vie? Eh bien, les Français sont aussi nombreux à dire que le travail est très important qu'à dire que, ouais, ça serait vraiment une bonne chose que le travail prenne une place moins grande dans notre vie, puisqu'ils sont, vous voyez, ici, ils sont les premiers. Donc, ils étaient parmi les premiers à dire que c'est très important. Ils sont les premiers avec la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est encore mieux. La Grande-Bretagne, à la fois, ils disent que le travail, c'est pas important, mais ils voudraient qu'ils prennent encore moins de place. donc, voilà. Est-ce que ça serait une bonne chose? Oui. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce que nous avons, avec mes collègues, appelé le paradoxe français, quand même. Eh bien, on peut proposer deux grandes catégories d'explications. Une première, je dirais, qui est une explication négative. Les gens ont envie que le travail prenne moins de place parce que le travail est pour certains devenu insupportable. Donc, ça renvoie à la question de la qualité des relations sociales et des conditions de travail. Et puis, il y a une explication que je considère comme positive, c'est-à-dire on souhaite que le travail prenne moins de place parce qu'on a aussi d'autres choses très importantes à faire. Alors, je vais passer ces deux catégories d'explications en revue assez vite. Vous proposez quelques slides pour les illustrer. Hein. Ça, c'est pour illustrer la mauvaise qualité des relations sociales, notamment en France. Hein. Vous voyez, c'est le pourcentage de personnes qui décrivent les relations entre la direction et les employés comme très bonnes ou assez bonnes. Vous voyez, la France est ici, donc dans la moins bonne position. Et en effet, c'est quelque chose d'assez bien connu, hein, que la qualité des relations sociales est jugée médiocre en France. Et on peut penser qu'il y a un lien entre cette médiocrité et l'espèce d'envie de retrait qui peut saisir un certain nombre de personnes. Mais on peut l'expliquer également autrement, par exemple, avec le pourcentage de personnes qui estiment que leur travail est toujours ou souvent stressant. Alors là, vous avez des taux qui paraissent énormes, puisque vous voyez, ça c'est l'International Social Survey Programme. Ce sont des résultats de 89, 90. 2017 et 2005. Donc vous voyez, le jaune c'est 2005, et là vous voyez que la France est en tête, hein, 47% des personnes. Bon, la question est formulée d'une certaine manière, il y a d'autres enquêtes où le stress apparaîtra beaucoup plus bas parce que la question est formulée d'une autre manière. Donc là, 47% des Français qui estiment que leur travail est toujours ou souvent stressant. À ça, on ajoute des possibilités de promotion peu élevées. La France est ici, dans la plus petite position, donc 14% des gens qui pensent que leurs possibilités de promotion sont élevées. Et finalement, un indicateur synthétique, hein, le pourcentage de personnes qui se déclarent complètement satisfaites ou très satisfaites, où la France est encore ici dans les moins bonnes positions. Donc, une certaine médiocrité des conditions de travail et d'emploi en France, qui est, alors je vous la confirme doublement, je vous la confirme par un témoignage et puis ensuite par une position de la France en Europe. Voilà un témoignage qu'on avait recueilli. Radio France avait fait une grande enquête sur le sens du travail. On avait recueilli 3000 témoignages. Là, j'en ai choisi un qui dit quand même bien ce qu'il en est. Hein. Le voilà, médecin du travail dans une grande entreprise dite de service public. Je constate des situations de souffrance au travail en lien avec une perte de sens. Je ne vous lis pas tout, hein, parce que j'ai tout mis. Mais une perte de sens. Des professionnels sont sommés de remettre en question ce qui fait le sens de leur métier au nom du principe de réalité. Une course à l'augmentation de la rentabilité, avec comme corollaire une augmentation de la pénibilité physique et des rythmes de travail sur des populations par ailleurs vieillissantes, un management sélectionné sur des critères de savoir, diplôme, et non de savoir-faire, des chefs d'établissement en réelle difficulté, un absentéisme qui explose, des accidents du travail nombreux, des troubles musculo-tendineux en lien avec l'augmentation des rythmes de travail, des organisations très tendues, chasse aux sureffectifs, et quels que soient les niveaux de la hiérarchie, des personnes en difficulté qui se demandent si elles vont pouvoir tenir jusqu'à l'âge de la retraite et qui ont peur au travail. J'en ai choisi un parmi d'autres. Et puis, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est pour vous montrer que ce n'est pas que des choses qui sont des années 80, 90, 2000. C'est l'enquête de la Fondation de Dublin. La Fondation de Dublin est l'agence européenne spécialisée sur la question des conditions de travail. Elle passe tous les 5-6 ans auprès de, aujourd'hui, 44 000 Européens, une enquête sur un questionnaire très approfondi sur les conditions de travail. Voilà ce que l'on voit dans ce questionnaire, c'est que, alors, vous voyez, hein, les chiffres sont différents. Je vous parlais de 47% tout à l'heure. Là, c'est 27%. 27% des salariés français stressés dans leur travail, contre 10% aux Pays-Bas, 12% au Danemark, 15% en Finlande. 54% des Français qui déclarent souffrir d'une fatigue générale contre une moyenne européenne de 35%. 59% qui déclarent travailler à des rythmes très élevés et 62% dans des délais très serrés pendant au moins un quart du temps. 51% seulement qui indiquent qu'ils sont consultés en cas de réorganisation de leur travail, contre quand même, vous voyez, des chiffres plus élevés aux Pays-Bas, en Irlande ou au Danemark. 31% qui déclarent pouvoir influencer les décisions qui sont importantes pour leur travail, contre 40% pour la moyenne des 27. Et enfin, 21% seulement qui se déclarent très satisfaits de leurs conditions de travail. Et c'est un chiffre mauvais, vous voyez, quand on le compare à la moyenne de l'Europe. Donc, globalement, ce qu'on peut dire à travers cette enquête, c'est quand même une position très, très médiocre de la France en matière de conditions de travail. Alors, je passe à ma deuxième catégorie d'explication. Hein, c'est pas seulement parce que les conditions de travail sont mauvaises, c'est aussi parce qu'on a envie de faire autre chose en dehors de son travail. Le travail est important, mais il y a d'autres choses importantes. J'illustre ça en vous montrant cette diapo où on demande aux gens s'ils s'inquiètent de problèmes professionnels en dehors du travail. Et les Français sont les plus nombreux. Vous voyez, la France est ici. C'est-à-dire que les personnes quittent leur travail et rentrent chez elles avec toute la charge mentale du travail. Donc, il y a un débordement du travail sur le hors-travail. Là, c'est le pourcentage de personnes qui rentrent toujours ou souvent épuisées, il y a une faute, pardon, après le travail. Et là, vous voyez, la France, elle est assez proche du Portugal. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que la France et le Portugal, ce sont les pays où, en Europe, il y a le plus de femmes avec enfants au travail. Et donc, je pense que cette diapositive, elle nous dit des choses sur la difficulté des femmes avec enfants à concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. Là, c'est plus clairement dit, hein. Mon emploi m'empêche de consacrer le temps que je souhaiterais à ma famille et à mon couple. La France est ici. Et donc, finalement, hein, je crois qu'il faut bien tenir ces deux explications ensemble pour expliquer notre paradoxe français. Médiocrité des conditions de travail pour un certain nombre de personnes et envie, notamment pour les femmes, très nombreuses en France, les femmes avec enfants, envie d'une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Alors j'arrive à ma dernière partie, hein, que j'ai intitulée « Sur quelle base réinventer le travail ?» Une fois qu'on a dit que les attentes étaient énormes qui pesaient sur le travail, les attentes de sens, d'expression de soi, et que ces attentes, d'une certaine manière, elles se fracassaient sur la réalité du monde du travail, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur quelle base est-ce qu'on peut réinventer le travail ? Je crois qu'il faut se poser une première question, qui est de savoir s'il est possible et souhaitable de satisfaire les immenses attentes qui pèsent sur le travail. Possible et souhaitable, parce qu'après tout, on peut se demander si c'est bien raisonnable de vouloir permettre à chacun de poser des attentes aussi fortes sur le travail. Est-ce que vraiment le travail peut être cette activité qui nous permet de fabriquer la production nationale et en même temps de permettre à chacun de s'exprimer? Il n'est pas certain que ce soit possible. Peut-être qu'après tout, c'est un idéal. Et donc, je pense que c'est une vraie question à se poser, de savoir si nous souhaitons satisfaire cet idéal. Mais il y a la question de savoir, évidemment, si les entreprises le souhaitent, elles, et sur quelles attentes on peut s'appuyer, peut-être presque sur quelles forces sociales on peut s'appuyer pour faire cela. Donc, je répète, hein, ce qui est frappant, c'est l'ampleur du fossé entre l'immensité des attentes et leur non-réalisation. Je cite là un philosophe qui a récemment écrit sur ce sujet, il s'appelle Matthew Crawford, il a écrit un très beau livre qui s'appelle « Éloge du carburateur, essai sur le sens et la valeur du travail ». Il raconte aussi que, un peu le même diagnostic, hein, même si lui n'a pas fait d'études sociologiques, mais il raconte sa propre expérience, que les attentes qui pèsent sur le travail n'ont jamais été aussi grandes, mais qu'il y a un malaise, hein, un malaise au travail et des craintes autour du sens du travail, du sens au travail. Et quelles sont les explications qu'il convoque et que tout le monde convoque pour cela, hein, c'est le développement du capitalisme financier et de l'impératif de rentabilité. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'enquête de Radio France, hein. Les personnes disent, si ça va si mal, c'est parce qu'on nous oblige à faire de la rentabilité et de la productivité à outrance. Je crois que c'est aussi parce qu'on a mobilisé l'investissement subjectif et l'engagement des personnes, et que cette mobilisation, elle a été déçue, c'est-à-dire en gros, on leur a dit « engagez-vous, mettez-vous pleinement dans votre travail », et puis que les gens ont l'impression qu'ils n'en ont rien retiré. Évidemment, il y a toute la question des nouvelles organisations du travail qui ont été mises en œuvre depuis les années 80-90 et des nouvelles méthodes de management, notamment ce qu'on a appelé le New Public Management, c'est-à-dire des méthodes de management du privé importées dans des sphères publiques. La question de l'intensification du travail, l'individualisation des objectifs et de l'évaluation, question très, très importante, ce que Askenazy a appelé le nouveau productivisme. Alors, je voulais vous montrer une enquête très récente, une exploitation très récente d'une enquête de l'enquête de la Fondation de Dublin, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Galli et Zou ont fait une exploitation de cette enquête et ils ont classé les organisations du travail, se sont intéressés à la manière dont le travail est organisé, les organisations du travail. Et ils les ont classées, donc comme ils ont exploité l'enquête de Dublin, ils ont regardé tous les pays européens, hein, ils ont classé ces organisations du travail selon la capacité de ces organisations à permettre la participation des salariés à la prise de décision dans leur travail, au quotidien, hein, ou leur influence sur l'ensemble des questions affectant leur travail. C'est-à-dire, dans quelle mesure les salariés ont-ils la main sur leur travail ? Donc, ils ont classé les organisations du travail comme ça. Ils ont trouvé trois types d'organisations du travail. Pour eux, il y a 27% des organisations du travail en Europe qui sont, disent-ils, des High Involvement Working Organizations. Alors, je ne sais pas comment traduire. Organisation du travail fortement responsabilisante, participante, impliquante, je ne sais pas. Il y a 38% qui connaissent des organisations du travail faiblement participantes ou responsabilisantes et 35% des organisations intermédiaires. Et ensuite, ils ont regardé s'il y avait des rapports avec les pays, et évidemment, il y a des rapports avec les pays, et ça va vous étonner, ceux qui s'en tirent très bien, c'est-à-dire là où les organisations du travail hautement participantes sont le plus développées. C'est dans les pays nordiques et un peu dans certains pays de nouveaux pays de l'Est, mais globalement dans les pays nordiques. Et puis nous, la France est ici, avec l'Allemagne. Nous, on est vraiment dans les organisations du travail faiblement participantes, faiblement responsabilisantes, faiblement impliquantes, donc où les salariés n'ont pas la main, ne peuvent pas influencer au quotidien leur travail. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que à la fois, ces organisations très responsabilisantes ou participantes, elles sont corrélées avec plus de bien-être pour les individus, un moindre absentéisme, plus de qualité du travail, et aussi la seule variable qu'ils aient trouvée pour expliquer le développement de ces organisations très participantes, c'est la présence des syndicats, la force des syndicats dans un pays. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je disais sur quelle base réinventer le travail. Moi, il me semble qu'il y a trois directions dans lesquelles on pourrait travailler. D'abord, remettre la question de la qualité du travail au centre des discussions, de la qualité du travail et des organisations du travail. Pourquoi, nous, en France, on a des organisations du travail moins impliquantes qu'ailleurs ? Deuxièmement, améliorer la participation des salariés à la gestion, libérer des espaces de parole, et j'ai dit de la libération d'espaces de parole au bicaméralisme. Je cite un livre d'une philosophe belge que j'aime beaucoup, qui s'appelle Isabelle Ferreras, qui a écrit récemment un livre où elle propose précisément cette solution de bicaméralisme. Elle dit que comme le travail, c'est le résultat de la conjonction du capital et du travail, eh bien, il faut qu'une entreprise elle soit dirigée par des dirigeants qui auront été élus à la fois par la chambre du travail et par la chambre du capital. Et puis, troisièmement, il me semble que si on veut respecter, en quelque sorte, remplir les attentes que l'on a vues qui se portaient sur le travail, je crois qu'il faut partager le travail, et notamment le partage du travail, ça peut être un moyen de permettre à tous, hommes et femmes, à la fois d'accéder au travail et de prendre en charge les activités hors travail. Et donc, moi, j'ai toujours été en faveur de la construction d'une nouvelle norme de travail à temps complet. J'en termine hein, sur cette interrogation très large, je rouvre un petit peu le débat, hein. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui on se demande en quoi la crise écologique à laquelle on est chaque jour un peu plus confronté peut permettre de changer notre rapport à l'emploi et au travail. Et là, je vous ai mis cette réflexion qui nous vient de Gadret, hein. Jean Gadret, qui est un économiste qui travaille beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, et sur les questions de croissance et sur les questions de travail. Gadret nous dit ceci: si nous voulons produire une production plus propre dans tous les sens, plus propre écologiquement et plus propre socialement, alors il va nous falloir un plus grand volume de travail. Il faut plus de travail. Alors la question est de savoir si nous serions capables, tous ensemble, à la fois dans notre pays, mais évidemment plus largement, peut-être en Europe, hein, de répartir ce plus grand volume de travail sur un plus grand nombre de personnes, ce qui pourrait nous permettre de résoudre à la fois notre immense problème du chômage, puisque quasiment 6 millions de personnes aujourd'hui sont inscrites à Pôle emploi et cherchent autre chose, et notre problème de malaise au travail. Est-ce qu'il n'y a pas là une occasion de tout repenser? Mais évidemment, quand je dis tout repenser, c'est vraiment tout repenser, c'est-à-dire s'engager dans une véritable bifurcation, dans ce que j'appelle, moi, la reconversion écologique. Et donc, je pense que la résolution de la crise écologique, elle doit s'accompagner, elle peut s'accompagner, d'une certaine manière, de la résolution aussi de la crise du travail et de l'emploi. Et c'est ma dernière diapositive, hein, comment est-ce qu'on peut porter ça? Est-ce qu'on pourrait construire une alliance entre salariés, syndicats, consommateurs, construire en quelque sorte une cause commune autour de la qualité, hein, qualité du travail?